sigil pour ta prière. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. En attendant le festin des noces dont tu as indirectement parlé, Gilles, hein, de rencontrer celui qui est intervenu dans notre vie, Paul nous dit que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Je n'ai pas toujours entendu parler ou rarement entendu parler de la guerre dont Paul parle dans la parole de Dieu. Et il parle en parlant de la guerre, du combat spirituel que nous devons mener en tant qu'enfants de Dieu. Et Paul nous dit que, nous le veuillons ou non, nous sommes dans un combat spirituel. Rappelez-vous, la dernière fois que j'ai apporté un message, c'était pas la dernière fois, il y a 2 semaines, mais il y a un mois, c'était fin mars, je parlais sur, je sais pas si vous vous rappelez, sur le livre d'Éphésiens, hein. Et Paul commence ce livre pour nous rappeler tout ce que nous avons en Jésus-Christ, toutes les bénédictions que nous avons en Christ en tant qu'enfants de Dieu. Et chapitre 1 à 3, il les développe et vous trouvez plus de 18 bénédictions que nous avons en Christ qui nous sont à notre disposition. Et chapitre 4, chapitre 5, jusqu'au chapitre 6, verset 9, il dit, une fois que nous saisissons ce que nous avons en Christ, assis en Christ, nous devons marcher en Christ. Marcher en Christ. Et après, Paul développe, une fois que nous marchons, nous devons, dans cette marche, tenir ferme. Chapitre 6, verset 10 à 20. Et je vous propose ce matin d'aborder ces versets, chapitre 6, 10 à 20, où Paul nous encourage à résister, à veiller, à tenir ferme, parce que nous sommes dans un combat spirituel, en tant qu'enfants de Dieu. Je vous propose de lire chapitre 6, les versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, pardon, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Jusqu'à là. Dans aucune autre lettre que Paul a écrite, hein, il en a écrit 13, il développe autant l'importance du combat spirituel que dans la lettre aux Éphésiens. Il parle de l'ennemi, il parle de Satan dans les autres lettres, mais pas ainsi. Et rappelez-vous, quel est le thème principal du livre des Éphésiens? L'Église, la communauté dont nous faisons partie. C'est révélateur qu'il développe ainsi le combat spirituel en lien avec l'Église. Tom Julien, dans son livre Les Trois Princes, il dit à un moment donné ceci. L'Église est la cible principale de la fureur de l'ennemi, le diable. Ce n'est pas surprenant puisque l'Église est le corps de Christ, l'incarnation spirituelle de notre Seigneur. Si Satan déteste notre Seigneur, et il le déteste, il est normal qu'il déteste l'Église ainsi que ses membres avec la même intensité. Paul nous rappelle que notre combat ne se situe pas au niveau terrestre, mais au niveau spirituel. Cela veut dire que nous ne devons pas nous tromper de combat. Et je pense que beaucoup trop souvent, on se trompe de combat. Et moi, le premier. Combat en lien entre nous. Quand on commence à se comparer, quand on commence à parfois s'accuser mutuellement, indirectement, ou quand on se jalouse mutuellement. Et ça, c'est justement le but de l'ennemi, qu'on se trompe de combat. Et Paul rappelle ici et développe dans les versets 13 à 20, les premiers versets, les versets 10 à 13, il nous rappelle notre besoin de la force de Christ et de l'armure de Dieu. Notre besoin en tant qu'enfant de Dieu, de la force de Christ et de l'armure de Dieu. Les versets 14 à 17, notre besoin de nous prendre ces armes et de les revêtir. Versets 14 à 17 et les versets 18 à 20, notre besoin de prière. Je vais relire les versets 10 à 13. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et je vous propose, Gilles, tu as avant lu Éphésiens Philippiens dans Parole Vivante, je vous propose de lire le verset 12 dans Parole Vivante. Vous écoutez juste, ne suivez pas dans votre version si vous ne l'avez pas. Paul traduit ce verset, Parole Vivante plutôt traduit ce verset 12 en disant « Ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas lutté uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. » Paul nous rappelle, étant enfants de Dieu, que nous voulons ou non, nous sommes dans un combat. Et ce combat est un combat de corps à corps. Ce n'est pas un combat qui se fait à distance, loin. Ce n'est pas une bataille menée à distance. Et de ce fait, nous avons besoin de nous revêtir des armures adaptées. Et Paul rappelle ici qu'il ne s'agit pas seulement de lutter contre des êtres de chair et de sang, mais il s'agit de l'ennemi de Dieu, l'ennemi de notre âme, Satan, le diable, et tous les esprits démoniaques qui sont à sa solde. Et pour lutter contre l'ennemi, l'idéal, c'est de connaître qui est cet ennemi. Et je vous propose ce matin de voir quelques noms de Satan dans la parole de Dieu. Le diable égale l'accusateur. En grec, ça veut dire calomniateur. Satan, l'adversaire, ennemi de Dieu, Lucifer, vous trouvez tous ces noms dans la Bible. L'impie, le tentateur, l'oppresseur, l'imposteur, le destructeur, le séducteur, Belzébuth, le trompeur, le ruseur, le malin, l'homme impie, le meurtrier, le menteur, le lion rugissant, un loup cruel, le prince de ce monde, le chef du royaume des ténèbres, le serpent ancien, le grand dragon, le dieu de ce siècle, Mammon, le prince de ce monde, le diffamateur, le blasphémateur. Je suis en train de lire Job et cette semaine, il y a un nom qui m'a frappé aussi. Job dit à un moment donné, le dévastateur. La bête qui monte de l'abîme, l'antichrist, un ange de lumière. Plus d'une trentaine de noms. Et il y en a sûrement beaucoup plus dans la parole de Dieu. Et tous ces noms nous rappellent, nous montrent la grande capacité de l'ennemi à s'adapter. Il est rusé, habile, stratège, séducteur. Quels sont ses pouvoirs? Satan, on le sait, est un ange déchu, hein? Car dans son orgueil, il voulait être semblable à Dieu et prendre la place de Dieu. Vous avez cette histoire racontée dans Ésaïe 14 et aussi dans Ézéchiel. C'est un ange déchu, cela montre aussi qu'il a été créé par Dieu, qu'il a une fin. Et Apocalypse 20 nous montre la fin de Satan. Ça veut dire que Satan n'est pas éternel. Et que Satan est aussi limité dans ce qu'il fait. Il est limité dans ses activités et ses connaissances. Il ne peut être à 1000 endroits à la fois. Contrairement à Dieu notre Créateur, hein, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Satan est certes puissant, mais notre Dieu est tout-puissant. Satan ne peut faire que ce que Dieu lui permet. Il est sous l'entière autorité de Dieu et non le contraire. Rappelez-vous l'histoire de Job, Job 1. C'est Satan qui vient devant le trône de Dieu et qui demande à Dieu s'il peut intervenir et pas le contraire. Dieu, par contre, fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Psaume 33, verset 9, il dit et la chose arrive, il ordonne et la chose existe. Mais Satan, non. Et parce que Satan ne peut que exercer une chose à la fois, il a à ses côtés des centaines d'anges, des légions déchues, hein, des dominateurs, des ténèbres, des esprits du mal, comme Paul nous le rappelle dans le verset 12. Et le but de Satan, c'est s'opposer à Dieu et aux enfants de Dieu. Son but, c'est de détruire, accuser injustement, calomnier, diviser, séparer. Son but étant de nous monter les uns contre les autres. Satan vient pour voler, tuer, détruire. Il est menteur, père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Et parfois, il veut nous faire croire aussi qu'il n'existe pas. John Stott dit ça à un moment donné dans un de ses livres. Son passe-temps favori, préféré, c'est de se déguiser en ange de lumière. De nous faire croire des choses et des vérités qui ne sont pas vraies. Ou les transformer en mensonges. Parce que Satan connaît très bien la parole de Dieu. Et Satan attaque rarement de front. Il préfère l'obscurité à la lumière. les Éphésiens, à qui Paul écrit, ils ont pu constater les pièges de Satan dans leur propre vie. Satan s'était emparé de plusieurs personnes qui étaient engagées dans les pratiques occultes. On peut lire dans Actes 19, les versets 18 à 20. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie, occultisme, apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. C'est ainsi que la force du Seigneur et sa parole se répandaient efficacement. Actes 19, 18 et 20. Et nous savons tous que Dieu, dans sa parole, interdit toutes ces pratiques occultes, Deutéronome 18. Mais comme Satan peut se servir de l'occultisme et du spiritisme, il peut aussi se servir de notre ennemi extérieur, le monde qui nous entoure, pour arriver à ses fins. Jésus dit à un moment donné, en parlant de Satan, que c'est le prince de ce monde. Jean 12, verset 31. Le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4. Et dans Éphésiens, Paul nous dit, le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, 2. Satan étant rusé, fourbe, il peut aussi utiliser notre chair, notre moi rebelle, charnel, qui s'oppose encore à Dieu, pour nous tendre des pièges. Dans Éphésiens 4, Paul nous dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. » Et Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 3, « Enflés d'orgueil, nous pouvons tomber entre les mains du diable, sous son jugement, tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. » Mais rappelons-nous que si Satan est puissant, notre Dieu est tout puissant. Dans le combat dans lequel nous sommes exposés en tant qu'enfants de Dieu contre Satan et contre ses esprits dans les lieux célestes, nous sommes déjà vainqueurs. Non vainqueurs par nous-mêmes, mais vainqueurs en Christ et par Christ. Et Paul nous rappelle que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a déjà remporté la victoire sur Satan et toutes les forces spirituelles occultes. Éphésiens 1, 20, 23, il nous le rappelle. Et la croix de Christ nous le rappelle aussi. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis sous les pieds de Christ et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Toute autorité se trouve en Christ. Et Jésus a aussi remporté par sa mort et sa résurrection la victoire sur le monde. Il le dit dans Jean 13, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et il a remporté la victoire aussi sur notre moi, égoïste, charnel. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Nous sommes plus esclaves du péché. Romains 6, 6. En Christ, nous sommes vainqueurs. Paul dit aux Colossiens, Jésus-Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15. Tous ces versets nous rappellent que Christ est déjà vainqueur. Que Christ a remporté la victoire. Que Christ est victorieux. Mais l'auteur aux Hébreux nous rappelle aussi, tu as mis toutes choses sous ses pieds, cependant nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Hébreux 2. Les fruits de la victoire que Christ a remportée à la croix, nous ne les voyons pas encore. C'est le déjà pas encore. Cela se fera définitivement un jour quand Christ reviendra. Satan sera vaincu définitivement. Alors la victoire sera totale, définitive. Apocalypse 19 à 22. Mais en attendant, par la foi en Christ, nous avons déjà la victoire. Éphésiens 2, 6. Par la foi, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais nous devons, en attendant cette victoire finale, définitive, nous dit Paul, nous revêtir de toute l'armure de Christ. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Non pas notre force, non pas par notre connaissance, mais par la force de Christ en nous. Nous appuyer sur Christ. Seule la force de Dieu, sa puissance qui agit en nous, par le Saint-Esprit, nous donne la victoire. C'est cette même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance est à notre disposition par le Saint-Esprit en nous. Éphésiens 3. Jean nous rappelle dans son épître, « Celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Et un jour, nous dit Paul, Jésus vaincra définitivement le prince de ce monde, Satan, par un simple souffle, le souffle de sa bouche, lors de son avènement. 2 Thessaloniciens. Juste, c'est tout. Et Satan sera détruit définitivement. Mais en attendant, Paul nous encourage dans ces versets, apprends toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Verset 13. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Verset 11. Revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Tenir ferme. Veiller. Persévérer. Veillez dans la prière. Et Paul commence par cette première arme qui nous demande de revêtir, qui est « Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La vérité ici qui sert de ceinture est la vérité de l'Évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher sans la ceinture à votre pantalon. Vous n'allez pas loin. Ou si tout à coup la ceinture s'ouvre, qu'est-ce qui vous arrive? On ne fait même pas 2 mètres. Ça montre l'importance de la ceinture de vérité. Et une des armes par excellence de Satan est justement le mensonge, parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Il préfère le mensonge, les ténèbres. Et de ce fait, Paul dit plusieurs fois dans ce livre d'Éphésiens, « Il nous faut tenir ferme dans la vérité qui est en Jésus-Christ, chapitre 4, 21. Tenir ferme et marcher dans la lumière de la vérité de l'Évangile, chapitre 5. » Ne pas mentir les uns aux autres afin de ne pas donner accès au diable. Chapitre 4, verset 27. Deuxièmement, Paul parle de la cuirasse de la justice ou la droiture selon les versions. C'est une manière d'agir et de vivre qui correspond aux normes de Dieu, opposé aux normes de ce monde. Dans le chapitre 4, Paul nous dit « Marchez de manière digne du Seigneur, en toute humilité, douceur, patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Chapitre 5 « Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Et si je tombe, je peux me relever, parce que Christ est notre justice, ma justice. Il a payé pour moi sur la croix. Et je peux saisir la grâce et me relever. Troisièmement, Paul nous dit, « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. » C'est l'importance de continuer à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, un évangile de paix. Annoncer Christ au monde qui se perd. Christ notre paix, Éphésiens 2. L'évangile de Christ qui seul peut nous réconcilier avec Dieu et qui nous permet d'être en paix avec Dieu. Quatrièmement, Paul continue en disant « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. » Verset 16. La foi dont Paul parle ici n'est pas notre foi en Christ qui nous sauve, hein, mais c'est notre foi qui s'appuie sur les promesses que nous avons en Christ. Il s'agit de s'approprier toujours à nouveau toutes les bénédictions que nous avons en Christ et bénédictions qu'il a développées dans le chapitre 1, 2, 3. Une des ruses de l'ennemi, c'est toujours de nous faire croire que ce que la parole de Dieu rapporte n'est pas vrai. Ou si elle est vraie, si c'est vrai, ça ne s'applique pas à nous parce que nous sommes indignes. Ou nous faire croire, une fois qu'on tombe dans le péché, il est l'accusateur. Il nous accuse. Il dit, encore, tu es encore tombé dans le même péché. Mais on peut se remuer. Et le bouclier de la foi permet justement de stopper les flèches enflammées du malin. Et Paul de continuer, verset 17. Faites bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Verset 17. Le casque du salut, notre salut nous est acquis par la foi en Christ et non à cause de nos bonnes œuvres. Paul le rappelle dans Éphésiens 2. Et une fois que nous sommes sauvés, l'ennemi ne peut plus nous ravir de la main de Dieu. Mais le casque nous aide aussi à nous protéger notre tête, nos pensées, notre esprit. Pensées et esprit que nous devons sans cesse soumettre à Christ et à sa parole. Rappelez ce que Paul dit aux Philippiens, Philippiens 4. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et combien de fois mes pensées sont contraires à ce que Paul dit dans Philippiens. Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ, dit Paul aux Corinthiens. Satan ne peut pas lire nos pensées, mais il va nous attaquer en nous faisant croire des choses opposées à la parole de Dieu. Des pensées charnelles, des pensées du monde. Et c'est pour ça que nous devons amener sans cesse toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10. Paul parle de la sixième arme qui est, si vous suivez, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, verset 17. L'épée de l'esprit est la seule arme qui permet en même temps de nous défendre comme les autres armes, mais en même temps, elle est là aussi, elle nous permet d'attaquer l'ennemi. Elle est une arme défensive, mais en même temps, elle est aussi une arme offensive. Hébreux 4. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Paul, quand il parle au verset 17 de la parole, il fait référence à la parole exprimée. Il emploie le mot grec qui veut dire « rhéma » au lieu du mot « logos » qui signifie « parole ». Et Paul veut nous rappeler par là que dans notre combat contre l'ennemi, il nous faut exprimer la parole de Dieu à voix haute. Prendre position par la foi face aux attaques de Satan à voix haute. Comme partagé, Satan ne peut pas lire nos pensées. Et il ne sait pas ce que nous croyons. Seul Dieu sait et connaît nos pensées. Et c'est pour ça qu'il nous faut prendre position par rapport à l'ennemi, à voix haute. Paul dit à Pierre, dans Pierre, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous pour vous dévorer. Opposez-vous lui avec une foi ferme. 1 Pierre 5. Et Romains 10, nous pouvons lire, confessez, affirmez, professez de votre bouche Jésus-Christ comme Seigneur. Ça veut dire qu'il faut le dire à voix haute. Il faut prendre position. Rappelez-vous Jésus, quand il était dans le désert, avant de commencer son ministère. Satan l'a attaqué à 4 reprises. Et à chaque fois, il a pris la parole. Ça montre bien que Satan connaît très bien la parole. Il est rusé. Et Jésus lui a résisté à voix haute en citant la parole. Et à un moment donné, à la fin, il dit « Va-t'en, Satan !» Jésus a pris position. Il y a quelques années, au début de mon ministère au Bourdin, je connaissais quelqu'un qui était dans l'occultisme, le spiritisme, qui faisait de l'écriture automatique. C'était une dame catholique. Et à un moment donné, elle nous a contactés parce qu'elle voulait en sortir. Elle avait d'abord contacté le curé de l'église catholique et le curé lui avait dit qu'il ne pouvait rien faire. Et elle m'a contacté parce que je connaissais son neveu et je suis allé chez elle et j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait des choses qui étaient louches. Et je lui ai dit, écoutez madame, je ne peux pas faire grand chose pour vous, mais Jésus peut faire. J'ai pris rendez-vous la semaine d'après et j'ai travaillé avec André Chouard pour ceux qui connaissent et j'ai dit à André, écoute André, viens avec moi. Il y a sûrement un problème occulte, spirituel. Et entre eux, Frédéric, tu y vas, t'en fais pas. Et s'il y a un problème, tu m'appelles. Et à peine je suis arrivé là-bas, la deuxième fois, sa main commençait à bouger dans toutes les directions. Dès que je priais et je prononçais le nom de Jésus, j'ai dit à André, écoute André, il faut que tu viennes parce qu'il y a un problème. Le temps que toi, André, viens, moi j'ai prié intérieurement. Et à un moment donné, la dame était assise en face de moi et André de l'autre côté. On a commencé à chanter par le nom de Jésus. Et plus on chantait, plus on prononçait le nom de Jésus, l'ennemi se manifestait à travers elle. Alors c'est une chose de savoir que ça existe dans un bouquin, mais c'est une autre chose de le vivre. Et après, avec André, on se regardait, on ne savait plus trop quoi faire. On a pris Apocalypse 3. À la fin, il y a ce verset qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et je serai vainqueur avec lui. » À chaque fois qu'on a lu ce verset, l'ennemi s'est manifesté à travers elle. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle est Son visage a complètement changé. L'ennemi a commencé à blasphémer. Elle a commencé à saliver comme tout. Elle est tombée par terre. Je n'ai jamais vu ça. Mais ça existe. Et tout à coup, ça s'est calmé. Et l'ennemi est parti. Après, je l'ai accompagné avec le libérateur de Neil Anderson. Et c'était l'étape vers la liberté. Mais ce qui m'a encouragé, c'est de voir la puissance de la parole de Dieu. Nous lisons souvent la Bible, mais nous ne réalisons pas la puissance qu'il y a dans cette parole. C'est une puissance de vie. À chaque fois qu'on a lu la parole, l'ennemi a dû se manifester et a dû se retirer. Par la suite, on a discuté avec André. André, il n'a jamais eu ça dans son ministère. Et pourtant, lui avait déjà 30 ans, 20 ans de ministère derrière. Et moi, je ne l'ai jamais revécu depuis. Mais c'est juste pour dire que ça existe. Et que l'ennemi se déguise en ange de lumière. Et si vous avez toujours de l'occultisme ou du spiritisme dans votre passé, vous devez le confesser. Vous devez le confesser. On ouvre une porte à l'ennemi. Et l'ennemi a un droit. On lui donne un droit. La parole de Dieu proclamée fait fuir l'ennemi. Résistez au diable et il fuira loin de lui. Et Paul termine ses armes en parlant de la prière. Veillez à cela et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Persévérez dans tout cela. Verset 18. Paul termine en nous encourageant d'être dans une attitude de prière constante. Prière qui rend efficaces toutes les armes à notre portée pour discerner les pièges de notre ennemi, pour lui résister et tenir ferme. Paul, je termine par ça, Paul développe l'armure en commençant par la ceinture de vérité. La vérité qui se trouve dans la parole de Dieu, la parole écrite. Il termine par l'épée de l'esprit, la parole proclamée. Et cela, il nous rappelle que Christ, la parole incarnée, en lui nous avons la victoire. Et cela nous montre l'importance de nous enraciner dans la parole de Dieu, de la connaître et de la proclamer à un moment donné, quand nous sommes dans un combat en opposition avec l'ennemi. Et Paul nous rappelle aussi, qu'en Christ, pas en nous, mais en Christ, nous avons la victoire. Christ a déjà remporté la victoire à la croix. Mais en attendant cette victoire finale, nous devons résister, veiller, tenir ferme, persévérer en Christ et dans sa parole écrite et dans sa parole proclamée. Et dans Corinthiens, Paul nous dit, et je termine par ça, « Si nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, renverser l'ennemi de notre âme. » 2 Corinthiens 10, 3 et 4. Et Paul, en terminant dans Romains, dit « Un jour proche, Dieu écrasera définitivement Satan sous nos pieds. Et ce jour, nous n'aurons plus besoin d'une armure, mais nous aurons une robe blanche, parce que l'ennemi sera définitivement vaincu et nous serons avec Christ dans les lieux célestes. » Mais en attendant, restons fermes, persévérants dans la parole de Dieu et que le Seigneur vienne à notre aide. Amen.